Donc, dans la conférence que nous approfondissons, donc, du cardinal Ratzinger, il analyse les raisons de la crise en disant « Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépassé le genre même du catéchisme. » Il ajoute « Mais qu'y avait-il derrière cela ?» Cette décision est d'abord sûrement à mettre en rapport avec l'évolution générale de l'enseignement, de la pédagogie, qui se caractérise elle-même par une hypertrophie de la méthode en comparaison du contenu. Dans toutes les disciplines, les méthodes deviennent critères de contenu et n'en sont plus le véhicule. Alors, est-ce que nous sommes arrivés et il a fallu attendre les années 70-80 pour découvrir des méthodes pédagogiques efficaces? Eh bien, le cardinal Ratzinger fait remarquer que déjà, dans le catéchisme du XVIe siècle, du Concile de Trente, on avait déjà une conscience très vive de la méthode catéchétique. Et il disait que le catéchiste devait savoir qui avait besoin de lait, qui avait besoin d'aliments solides, afin d'adapter son enseignement à la capacité de chacun. Et le cardinal fait aussi remarquer que, par ce catéchisme-là, il y avait plus de liberté laissée au catéchiste que ne le fait la catéchétique actuelle. Donc ça, c'était pour 1983. En 87, le pape Jean-Paul II reçoit les évêques de France en visite ad limina à Rome. Pour les évêques du centre-est, il juge opportun, dit-il, d'aborder le sujet de la catéchèse. Il fait le constat de l'ignorance religieuse qui s'étale de façon déconcertante, dit-il, et du besoin d'une proposition claire et ardente de la foi. Et il donne quelques conseils. Les yeux doivent demeurer fixés sur la bonne nouvelle à proposer dans son intégralité, le contenu, avec une pédagogie adaptée aux auditeurs, sans sacraliser une méthode qui est de l'ordre des moyens. Et puis vous savez que Benoît XVI à Lourdes nous a dit cette phrase souvent répétée, la catéchèse n'est pas d'abord une affaire de méthode, mais de contenu. Donc si Jean-Paul II, si Benoît XVI insiste tant, c'est qu'il y a vraiment un danger d'une hypertrophie de la méthode par rapport au contenu. Il faut donc peut-être reprendre des textes fondamentaux que vous devriez tous lire et approfondir pour se redire, mais qu'est-ce que la catéchèse ? Alors vous avez le texte de Jean-Paul II sur la catéchèse en notre temps. Texte facile à lire et à apprendre par cœur. Et puis, vous avez un document plus important qui est le Directoire général de la catéchèse en 97. Celui de 71 est plus petit, alors vous pouvez aussi l'utiliser. Et Jean-Paul II nous dit que dans ce processus d'évangélisation, la catéchèse est une étape importante. C'est l'étape de l'enseignement et de la maturation. Elle poursuit un double objectif, faire mûrir la foi initiale et éduquer par le moyen d'une connaissance plus approfondie et plus systématique. Donc, foi initiale, soit les enfants l'ont reçue dans leur famille, soit c'est un adulte qui a entendu parler du Christ et qui désire devenir disciple du Christ. Il y a déjà eu un petit quelque chose et la catéchèse est l'étape pour faire grandir. Je vous donne encore d'autres textes de Jean-Paul II parce que, comme ils n'ont pas été beaucoup diffusés à l'époque, il vaut mieux les reprendre. La catéchèse est une éducation de la foi, qui comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et systématique. Et le but définitif de la catéchèse, nous dit Jean-Paul II, est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Lui seul seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. Le contenu, eh bien, c'est ce que nous approfondissons depuis hier, ces quatre piliers de la foi. Ce contenu doit être une fois, 100 fois entendu, accueilli avec le cœur et sans cesse approfondi par la réflexion et l'étude systématique. Vous savez qu'avec les enfants, il ne suffit pas de dire une chose une fois, il faut la répéter. Et le Père nous disait, il faut rabâcher. Eh bien, en catéchèse, c'est cela. Alors, la méthode. Jean-Paul II nous dit que la catéchèse doit se soucier non seulement de nourrir, d'enseigner la foi, mais de la susciter sans cesse avec l'aide de la grâce, d'ouvrir le cœur, de convertir, de préparer cette adhésion totale au Christ. Ce souci va commander en partie le ton, le langage et la méthode de la catéchèse. Nous n'apprenons pas le français ou les mathématiques aux enfants. Nous devons faire grandir la foi avec la grâce de Dieu. C'est totalement différent. Le directoire général de la catéchèse nous dit que la foi doit être vécue, connue, célébrée, traduite en prière. La foi exige d'être connue, célébrée, vécue et traduite en prière. Alors, quelle pédagogie, quelle méthode? Eh bien, le grand modèle, c'est la méthode divine. Le directoire nous dit, la méthode de la catéchèse a pour modèle la pédagogie divine, qui nous a été manifestée tout au long de l'histoire du salut, et plus merveilleusement par le Christ lui-même. Que faisait Jésus pour former ses disciples? D'abord, il leur faisait connaître les diverses dimensions du royaume de Dieu. Il leur apprenait à prier, il leur proposait des attitudes évangéliques et les initiait à la mission. C'est cela que nous retrouvons dans la catéchèse. Et Jésus agissait de façon différente avec les personnes qu'il rencontrait. Il prenait le temps d'expliquer, de répéter, vous rappelez jusqu'à quand vous supporterai-je. Il faisait réfléchir. Par exemple, Simon le pharisien lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il lui explique la parabole et il donne, et Simon donne une bonne réponse et après il fait le parallèle avec Marie-Madeleine. Il prenait des exemples très concrets de la vie quotidienne. Voilà cette méthode que nous pouvons utiliser au niveau de la catéchèse. Alors maintenant, entre méthode et contenu, comprenez bien que la méthode va être au service du contenu et en fonction du contenu que l'on veut donner, eh bien, on prendra telle ou telle méthode. Donc parfois, on peut être déconcerté par ce qu'on nous demande de faire. Par exemple, en catéchèse, on nous dit « Mais pourquoi on nous demande de faire telle chose, un découpage, tout ça ?» Mais ce qu'il faut voir, c'est quels sont les objectifs, pour quelles raisons on nous fait faire cela. J'ai entendu hier, c'est pour répondre à Béatrice. Si par exemple on vous demande que pour la prochaine session vous apportiez un verre, une fourchette, un couteau, une assiette, vous trouvez c'est ridicule. Mais si on comprend que la chose très importante c'est que les maris fassent la vaisselle, alors vous comprenez pourquoi on utilise cette méthode. Donc, que nous dit Jean-Paul II sur le lien entre méthode et contenu? Il faut donc une adaptation, un cheminement, un accompagnement, c'est indispensable pour les enfants catéchisés. Mais il faut d'abord l'intégrité du contenu. Jean-Paul II insiste, toujours dans le même texte, en disant « Il se peut que dans telle situation, prendre telle méthode, telle pédagogie pour une adaptation aux enfants. Mais il faut toujours de l'équilibre. Il dit que l'intégrité ne dispense pas de l'équilibre. C'est évident qu'un enfant de 7 ans, vous ne mettez pas 3 heures à écouter votre discours. Mais le choix que l'on va faire sera valable dans la mesure où, loin d'être commandé par des théories ou préjugés plus ou moins subjectifs et marqué par une certaine idéologie, il sera inspiré par l'humble souci de mieux rejoindre un contenu qui doit demeurer intact. La méthode et le langage utilisé doivent rester vraiment des instruments pour communiquer la totalité et non une partie des paroles de vie éternelle et des chemins de vie. Il insiste encore. Pour que l'oblation de la foi soit parfaite, celui qui devient disciple du Christ a le droit de recevoir la parole de la foi, non pas mutilée, falsifiée, diminuée, mais pleine et entière, dans toute sa rigueur et toute sa vigueur. Trahir en quelque chose l'intégrité du message, c'est vider dangereusement la catéchèse elle-même et compromettre les fruits que le Christ et la communauté ecclésiale sont en droit d'en attendre. Et encore, toujours dans ce paragraphe 30, aucun prétexte n'est valable pour refuser une partie quelconque de cette connaissance. Aucun vrai catéchète ne saurait légitimement opérer de sa propre initiative une sélection dans le dépôt de la foi. Alors bien sûr, par souci d'adaptation, c'est évident qu'on ne va pas faire un traité sur la Sainte Trinité à un enfant de 5 ans comme à un adolescent ou un adulte. Et on peut être tenté de ne pas donner telle ou telle vérité sous prétexte que les enfants ne sont pas aptes à comprendre. C'est méconnaître l'action de l'Esprit Saint. On se rappelle, ce ne sont pas le français ou les mathématiques que l'on se enseigne. Il faut bien sûr leur donner de façon élémentaire, mais ne pas les éliminer. Et Jean-Paul II nous dit, catéchèse initiale pour les enfants, mais non pas fragmentaire, puisqu'elle devra révéler, quoique d'une manière élémentaire, tous les principaux mystères de la foi et leur incidence sur la vie morale et religieuse de l'enfant. Alors, pour prendre un exemple un peu concret, on avait étudié un parcours il y a quelques années, et à propos de la présence réelle, à propos de l'Eucharistie, pour des enfants qui préparent leur première communion, il est proposé des temps forts, avec comme objectif prendre en compte l'expérience que les jeunes ont du pain, de la nourriture et du partage. Faire découvrir ce que l'Église et le Christ font avec le pain. Quelles actions sont déployées durant la messe. Vous voyez les objectifs, le contenu, c'est cela. Et on va prendre une méthode pour cela. On va apporter une grosse miche de pain et on va voir avec les enfants comment on fait le pain. Et ce qui est écrit dans le livre de l'animateur, c'est réfléchir aux gestes et aux paroles qui se passent pendant la messe. Il ne s'agit évidemment pas, avec des jeunes de 11 ans, de dire tout ce que croient les chrétiens à propos de l'Eucharistie. Donc cela rejoint ce que Père Bernard nous disait tout à l'heure. Si on prend en principe qu'un enfant de 11 ans n'est pas capable de comprendre que Jésus est là présent quand il va faire sa première communion, eh bien, on enlève une partie du contenu et on utilise une méthode adaptée. Il y a aussi, toujours dans le même parcours, qui va dans le même sens, pour bien montrer à des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe, que la messe, on peut faire un parallèle avec une fête avec les enfants. Donc les enfants, ils savent, on fait le parallèle en 4 dessins. Premier, tout le monde arrive, on se donne des cadeaux, on est très content. Et à côté, on a l'image du prêtre qui accueille. Ensuite, tout le monde s'amuse, on parle et tout. Et en parallèle, il y a la parole de Dieu. Ensuite, on mange la pièce montée, c'est très sympa. Et en parallèle, il y a la communion. Et après, on se dit au revoir. Et voilà, donc on reprend aussi des mots importants. Par rapport à ce que Bernard vous a dit, on comprend mieux pourquoi tel et tel mot sont utilisés. Donc, il est demandé que l'animateur note ce qui relève de l'accueil, les gestes, l'invitation, les présentations, ce qui relève de la parole, les échanges, les récits, ce qui relève des signes de fête, les cadeaux, le gâteau, les jeux, les danses, et ce qui relève de le revoir. Et on fait la parallèle entre les signes de fête et le signe du pain et du vin consacré par le prêtre et partagé. Et à travers ce signe, c'est le Christ qui se donne dans son amour. Jésus, il n'a pas agi pareil. Si on reprend cette pédagogie divine, en voyant telle ou telle personne, il n'a pas dit « celle-ci, elle n'est pas capable de comprendre ». Voyez la rencontre avec la Samaritaine. À elle, il révèle « le Messie, c'est moi ». Et pourtant, c'était une femme. Connaissant sa vie. Connaissant la vie de cette femme comme on le voit, il aurait pu se dire, mais elle ne peut pas comprendre. Vous voyez, il n'a pas agi. Donc, intégrité du contenu et la méthode est au service de cette intégrité. Ensuite, le langage utilisé. C'est vrai que Dieu, pour se manifester aux hommes, pour se révéler, va utiliser le langage humain. Il faut donc adapter notre langage aux enfants et aux jeunes de notre temps. Et c'est ce que l'on retrouve dans tous les ouvrages de catéchèse. Mais attention, il ne faut pas que cela supprime le credo. Et Jean-Paul II avait beaucoup insisté. La catéchèse ne saurait admettre aucun langage qui, sous quelque prétexte que ce fût, même soi-disant scientifique, aurait comme résultat de dénaturer le contenu du credo. Ne convient pas davantage un langage qui trompe, qui séduit. La loi suprême est au contraire que les grands progrès de la science du langage doivent pouvoir être mis au service de la catéchèse, pour qu'elle soit vraiment en mesure de dire, de communiquer tout le contenu doctrinal sans déformation. Toujours la méthode au service du contenu, la mémorisation. Paragraphe 55 que vous pouvez apprendre par cœur. Nous savons tous que la méthode, donc dit Jean-Paul II, là, il constate que la méthode, comme on faisait autrefois, question-réponse, on apprend par cœur. C'est vrai que cette méthode peut présenter certains inconvénients. Le moindre n'est pas celui de se prêter à une assimilation insuffisante, parfois presque nulle, tout le savoir se réduisant à des formules que l'on répète sans les avoir approfondies. C'est vrai. D'où un abandon quasi généralisé. Et même aussi dans l'éducation autrement, on le retrouve et on découvre maintenant que c'est quand même un manque. Alors, le pape demande pour la catéchèse une certaine mémorisation des paroles de Jésus, de passages bibliques importants, des 10 commandements, des formules de profession de foi, des textes liturgiques, des prières essentielles, des notions clés de la doctrine. Tout cela, loin d'être contraire à la dignité des jeunes chrétiens, ou de constituer un obstacle au dialogue personnel avec le Seigneur, c'est une véritable nécessité, comme l'ont rappelé avec vigueur les pères synodaux. Et puis cette phrase très poétique et très vraie, il faut être réaliste. Ces fleurs, si l'on peut dire, de la foi et de la piété ne pousse pas dans les espaces désertiques d'une catéchèse sans mémoire. Ces fleurs de la foi et de la piété ne poussent pas dans les espaces désertiques d'une catéchèse sans mémoire. L'essentiel est que ces textes mémorisés soient en même temps intériorisés. Cela apprend par cœur, mais apprend avec son cœur aussi. Ils doivent être compris peu à peu dans leur profondeur pour devenir source de vie chrétienne, personnelle et communautaire. Mais l'Église est comme une mère, et une mère, elle apprend à son enfant à parler. Elle donne des mots pour exprimer quelque chose, même si l'enfant ne comprend pas tout. Ensuite, un dernier point, on en reparlera encore, c'est à propos de l'expérience et à propos de la parole de Dieu. Il faut bien avoir en tête tout ce qui a été dit hier aussi. Cette action de l'Esprit-Saint dans le cœur des enfants ou des personnes qui sont catéchisées, c'est vrai qu'il est le maître intérieur, c'est lui qui nous introduit dans la vérité tout entière. Mais dans le sens qu'il nous aide à comprendre l'enseignement qui est donné et à adhérer par l'acte de foi. Mais cette action de l'Esprit-Saint peut être mal comprise. Par exemple, à propos de la parole de Dieu, comme le disait Père Bernard. C'est vrai qu'elle a une place importante dans la catéchèse. Elle doit être interprétée à la lumière du magistère. Ce ne sont pas les enfants qui vont tout découvrir par eux-mêmes ce que les pères de l'Église ont mis des siècles à découvrir. Cette parole de Dieu, nous allons faire une lecture guidée, une lecture priée. Ensuite, l'expérience. L'éducation de la foi comporte évidemment une part d'expérience. On ne se contente pas de faire tout un exposé sur la prière, mais on fait prier les enfants, on prie avec eux. Il faut qu'ils fassent l'expérience de la prière. Mais attention, nous dit Jean-Paul II, il est vain de prôner l'abandon d'une étude sérieuse et ordonnée du message du Christ au nom d'une méthode qui privilégie l'expérience vitale. Et cette phrase importante, personne ne peut atteindre la vérité intégrale par une simple expérience privée, c'est-à-dire sans une explication adéquate du message du Christ, qui est chemin, vérité et vie. Donc aucun enfant ne peut découvrir par lui-même s'il n'est pas guidé, si on ne lui donne pas, si on ne transmet pas. Et cette phrase, cet extrait du texte de Jean-Paul II, nous le retrouvons dans le texte des évêques de France, le dernier. Alors, je livre un peu une expérience. Quand nous sommes arrivés à Marseille, c'était évidemment dans les années 80. Et comme je faisais un peu de catéchèse, je suis allée aux formations pour catéchistes à l'époque. Et donc, à propos de la révélation et de l'expérience, voilà ce qui nous était dit. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait dit sa foi. Il avait exprimé ce qu'il pensait de Dieu et c'était une révélation. Et puis les premières communautés chrétiennes, après les apôtres, avec le temps, ont elles-mêmes mis par écrit leur foi. C'était une révélation. Et nous, aujourd'hui, dans les groupes d'enfants, par l'expérience, tout cela, il y a une révélation. Il n'est pas question, il faut que par eux-mêmes, ils redécouvrent. Et cela nous était donné de façon tellement forte que, bon, je suis pauvre, mais si je n'avais pas eu la communauté, si je n'avais pas eu le Père derrière, ben j'aurais foncé là-dedans. Vous voyez, c'est tellement martelé ce genre de choses. Cela rejoint aussi d'autres méthodes pédagogiques, je crois, actuelles, où on dit que les enfants doivent par eux-mêmes découvrir les règles de grammaire et tout ce qu'il paraît que c'est comme ça. Il faut comprendre en amont pourquoi on nous donne cela sur le terrain. Alors, actuellement, il y a un terme qui revient un peu depuis quelques années, c'est le terme de mystagogie. Voilà, qui correspond à une pratique ancienne. Les néophytes, ceux qui venaient d'être baptisés, ils avaient été inondés par la grâce. Et c'est après qu'ils avaient une catéchèse mystagogique qui leur expliquait davantage ce qu'ils avaient vécu. Et cela est repris, mais de façon un petit peu différente. Alors, je vais vous citer un autre extrait de Point de repère, mais c'est déjà un peu plus ancien, puisque ça remonte au moins à 4 ans. Donc c'est le numéro 211. Donc on ne parlait plus là de catéchète, on parle de mystagogue. Alors le mystagogue, je vais vous lire et vous allez comprendre un peu mieux tout ce qui a été dit hier et ce matin et ce que vous entendrez encore. Le mystagogue est avant tout un initiateur. Il conduit donc selon le mode de l'initiation. Il met en route. Il instaure une dynamique de cheminement. Tout n'est pas écrit à l'avance. Le temps est pour lui un allié puisqu'il permet le mûrissement. Il n'explique pas. Il met la personne en présence d'un texte, d'un symbole, d'un rite, rendant possible la rencontre, l'expérience personnelle. Il ne dit pas ce qu'il faudrait comprendre ou remarquer. Il ouvre le chemin, il rend la révélation possible. Il ne répond pas aux questions. Il permet à l'autre de cheminer avec ses propres questions. Il donne éventuellement quelques pistes, de préférence sous forme interrogative, pour permettre d'approfondir la réflexion. Il donne à vivre, il donne à penser, il donne à parler. Il rend les choses possibles pour l'expression personnelle. Il regarde avec bienveillance le chemin qu'emprunte celui qui l'accompagne. Il prend soin de la personne telle qu'elle est, peu importe les méandres et les errances qui sont eux-mêmes porteurs de sens. Il n'a pas de programme prédéterminé. Il est disponible à ce qui se vit et réagit selon ce qui se passe. Il sait que le seul initiateur, c'est l'Esprit Saint. Il essaie d'y être lui-même accordé. Alors, encore un petit point à propos de la foi. Pour vous montrer, après tout ce que Père Bernard vous a dit ce matin, c'est important. Jean-Paul II nous dit, quand nous éduquons des enfants, il ne faut pas leur donner de la foi un concept tout négatif, comme un non-savoir absolu, une sorte de cécité, un monde de ténèbres. Mais sachons leur montrer que la recherche humble et courageuse du croyant, loin de partir de rien, de simples illusions, d'opinions faillibles, d'incertitudes, se fonde sur la parole de Dieu, qui ne se trompe ni ne trompe, et se construit sans cesse sur le roc inébranlable de cette parole. Jean-Paul II était au courant de tout ce qui se passait sur le terrain. Donc, toujours dans le même parcours, nous avons un passage intéressant à propos de la foi. Et comme le visuel est c'est très fort pour les enfants, vous savez, ils se rappellent beaucoup. Donc on voit tout un texte où on voit des chrétiens, mais aussi vous voyez, la dame avec sa lampe de cristal, un astronaute, il y a un savant, tout ça. Et alors, dans le livre de l'animateur, à propos des rencontres prévues pour parler de la foi, on dit ces quatre rencontres donneront le moyen d'exprimer leurs difficultés à croire aujourd'hui, aussi bien que leur recherche tâtonnante d'un chemin de foi. Et encore, dans le foisonnement des croyances de toutes sortes, il n'est pas très facile de discerner ce qui fait l'originalité de la foi et du Dieu des chrétiens. Et encore, les chrétiens ne prétendent pas posséder une vérité immédiate et toute faite sur Dieu. La prière. En octobre 1991, Jean-Paul II, pour la Journée mondiale de prière pour la vocation, a fait un beau résumé de la place de la prière dans la catéchèse. Le chemin de la catéchèse atteint un point particulièrement sensible lorsqu'il devient école de prière, c'est-à-dire de formation à l'entretien plein d'amour avec Dieu, Créateur et Père, avec le Christ, Maître et Sauveur, avec l'Esprit Saint qui donne la vie. Grâce à cet entretien, ce qu'on écoute, ce qu'on apprend, ne reste pas uniquement dans la tête, mais saisit le cœur et cherche à passer dans la vie. En effet, la catéchèse ne peut pas se contenter de proclamer les vérités de la foi, elle doit viser à susciter la réponse de l'homme afin que chacun joue son rôle dans le plan de salut et soit prêt à offrir sa vie pour la mission de l'Église. Et en conclusion, la conclusion, un extrait du directoire général de la catéchèse: il n'y aura jamais de catéchèse ni d'évangélisation sans l'action de Dieu qui agit par son esprit. Dans la pratique catéchétique, ni les techniques pédagogiques les plus avancées, ni le catéchiste doté de la personnalité humaine la plus captivante ne remplaceront l'action silencieuse et discrète de l'Esprit Saint.